Bonjour à tous. Notre étude des psaumes. Et on va étudier ensemble le psaume numéro 12. Et avant de commencer la lecture de ce psaume, je voulais introduire ce moment par une petite vidéo que vous allez voir. Notre langue nous rend fort. Notre allié, ce sont nos lèvres. Qui dominerait sur nous? Mais l'Éternel dit: à cause des pauvres qui sont opprimés et des malheureux qui vont gémissant, maintenant moi j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures. C'est de l'argent affiné, 7 fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, tu tiens parole et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour, des méchants rôdent et la corruption domine parmi les humains. Donc dans ce psaume, David se lamente sur l'état de sa société, une société où le mensonge et la flatterie, la duplicité règnent. Et on peut se rendre compte que finalement, la société a finalement peu changé depuis cette époque-là. Le mensonge, évidemment, est toujours aussi présent. Et si vous avez suivi un peu l'actualité, vous savez même que le gouvernement veut essayer de faire passer une loi pour interdire les fake news, interdire le mensonge dans les médias. Bon courage à lui pour arriver à interdire ça et à distinguer ce qui est le vrai du faux. En réfléchissant un peu à cette notion de vérité et de mensonge, je me suis rendu compte que dans ma vie, cet attachement à la vérité et ce rejet du mensonge, c'était quelque chose qui était important dans ma façon d'être vis-à-vis de Dieu. Et en lisant ce passage, ça a été l'occasion pour moi de revenir sur l'importance qu'avait la vérité, qu'avait cet attachement à la vérité, cette éthique de la vérité dans ma vie, de revenir un petit peu à ce qu'elle signifiait. Et donc là, on voit David qui regrette la façon dont les hommes se comportent vis-à-vis de la vérité. Et en lisant la parole, on se rappelle de tous les versets qui nous mettent en garde contre le mensonge. Le premier dont on peut se souvenir, évidemment, c'est dans les 10 commandements. On se rappelle que Dieu nous enjoint à ne pas porter de faux témoignages. De faux témoignages contre notre prochain. Et on voit que, il s'agit, quand on parle, de ne pas chercher à nuire à celui qui est devant nous. Le Seigneur, lui, va plus loin dans cette attitude-là. Et là encore, on se rappelle du sermon sur la montagne, où là, c'est Jésus qui nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non, et tout ce qu'on y ajoute vient du diable. On retrouve ça aussi dans Jacques. Dans Jean, Jésus va nous rappeler que c'est le diable qui est meurtrier, qui est menteur, qui parle de ce qui est en lui, car il est le père du mensonge. Paul va nous encourager encore en nous disant dans Éphésiens 4 au verset 25, il nous dit: renoncez au mensonge et que chacun d'entre vous s'attache à la vérité. Et puis encore dans Apocalypse, on va trouver que Dieu rejette rejette les menteurs et que les menteurs ne feront pas partie de ceux que Dieu prendra avec nous. Tous ces passages nous montrent que, eh bien, que Dieu ne prend pas le mensonge à la légère. Que c'est, que le fait de mentir, de tordre volontairement la vérité, c'est quelque chose qui lui déplaît fondamentalement. Notre société française, elle est plutôt permissive avec le mensonge. Dans notre culture, c'est plus ou moins admis que, un mensonge aide à gérer typiquement la société, que les politiciens, que les responsables nous mentent finalement, ça fait partie des choses qu'on accepte assez facilement, voire même qu'on aurait tendance à encourager. Quelqu'un qui serait trop honnête, on le verrait comme quelqu'un de naïf. C'est assez différent d'ailleurs de voir comment la société américaine, elle est condamne beaucoup plus fortement le mensonge et accepte absolument pas qu'un politicien, ben, par exemple, mente et soit pris en flagrant délit de mensonge. C'est un motif de révocation. Mais chez nous, c'est pas le cas. Chez nous, c'est pas le cas. Culturellement, on va accepter que nous devions faire ce qui doit être fait, qu'un peu de bon sens nous montre que, s'il faut mentir pour régler une situation, eh bien, on a quelqu'un. La parole de Dieu nous montre que c'est pas dans cette direction-là que Dieu nous conduit. Et quand on se demande ce qui va nous différencier de notre société, c'était un des sujets de réflexion qu'on avait dans le groupe de partage il y a quelques jours. On se demandait qu'est-ce qui nous différencie dans nos comportements de la société qui nous entoure. Donc, on pensait à la morale sexuelle, peut-être, qui est un des marqueurs les plus forts. Mais je pense, en tout cas, que moi, dans ma vie de tous les jours, ce qui va me différencier du comportement de ceux qui m'entourent, c'est que je vais rejeter le mensonge, que je vais choisir la vérité, même quand cette vérité est à mon détriment. Alors, quand on réfléchit au concept, on se demande si, bien sûr, cet attachement à la vérité est absolu ou pas, s'il y a des principes qui sont plus grands à respecter. Et il y a certains exemples bibliques qui nous interrogent. On peut penser par exemple à Rahab, la prostituée de Jéricho, qui a caché les espions et qui a menti pour leur permettre de s'échapper. Et Dieu a béni Rahab. On le sait, elle est citée parmi ceux qui ont manifesté leur foi et leur attachement à Dieu. Elle fait partie de l'ascendance de Jésus. Rahab a été béni, alors, malgré son mensonge, ou bien c'est une question qu'on peut se poser. Et la plupart du temps, elle se pose pas à nous. Il s'agit de circonstances vraiment vraiment exceptionnelles. Mais après, je laisse à chacun finalement le soin de réfléchir à comment il voit ce caractère absolu de la vérité. Malgré tout. Ce que la parole met en avant, c'est que cet attachement à la vérité, c'est d'abord une question de. Ça met en lumière notre relation à Dieu. Ça met en lumière le fait que, eh bien, je choisis de faire confiance à Dieu pour ma vie avant mes propres forces, avant ma propre intelligence, avant ma propre capacité à modifier la situation, à modifier le comportement des gens autour de moi, par la façon dont je vais les manipuler, ou je vais tordre la vérité pour qu'elle m'arrange et qu'elle me favorise. Eh bien, avant tout cela, je mets ma confiance en Dieu et je décide que c'est d'abord à lui que je veux obéir. C'est d'abord à lui que je veux remettre ma vie, parce que je sais que lui en prend soin, et que si je me place dans une démarche d'obéissance et de confiance, alors je suis dans sa main. Et ce n'est pas que nul mal ne peut m'arriver, parce que bien sûr la souffrance et la persécution peuvent m'atteindre, mais je choisis que ce qui est important dans ma vie, c'est d'abord ce que Dieu choisit et ce que Dieu dit de moi et attend de moi. Et la question de savoir si je suis à la place que Dieu m'a demandé d'occuper, c'est ça qui conduit ma façon de réagir avec ceux qui m'entourent. Dans ce passage, David va un peu plus loin que la condamnation du mensonge. Il va aussi déplorer la façon dont les méchants vont manipuler la langue, vont manipuler le discours, vont manipuler l'information de telle sorte que bien que le pouvoir leur revienne. Il dit les méchants disent: notre langue nous rend fort, nos alliés ce sont nos lèvres, qui dominerait sur nous. Et donc avec leur langue, avec leur la façon dont ils vont parler, eh bien c'est eux qui cherchent à dominer. Et évidemment, là-dessus, sa société est pas différente de la nôtre. Là, le contrôle de l'information a toujours été un instrument de pouvoir. Ce qui change maintenant, c'est simplement la vitesse à laquelle évidemment l'information se transmet. J'écoutais il y a pas très longtemps une émission qui parlait par exemple, de la façon dont les Templiers avaient été, l'ordre des Templiers avait été détruit au Moyen-Âge, et en parlant des fake news, donc effectivement, cet ordre monastique a été éradiqué par décision du roi, en utilisant toutes les fausses nouvelles qui ont pu être propagées, donc l'utilisation du mensonge pour manipuler et contrôler l'opinion, eh bien, remonte pas à maintenant. Et même si vous avez tous entendu parler de la façon dont certaines élections récentes ont été manipulées par des nouvelles propagées sur Facebook ou sur d'autres médias. L'information est manipulée et utilisée. Et nous sommes, nous aussi, manipulables. Et c'était ça qui me paraissait intéressant de souligner, c'est que nous ne sommes pas à l'abri d'être manipulés. Il n'y a pas très longtemps, des chercheurs ont essayé de... ont utilisé des singes et ont montré des images à des singes. Leur but, c'était de voir dans quelle mesure est-ce que nos comportements face à la publicité étaient innés ou étaient acquis. Et donc, ils ont montré des images. Donc, par exemple, ils ont associé la photo d'un mâle dominant, donc c'était des singes, je ne me rappelle plus de quelle race, un mâle dominant avec une photo abstraite. Donc ils ont montré ces images, plusieurs images comme celle-là. Et puis ensuite ils ont montré plusieurs figures abstraites aux singes, et majoritairement les singes ont choisi la figure qui avait été associée à l'image du mâle dominant. Donc ils ont fait ça avec d'autres images de femelles par exemple, et donc ça marchait aussi. Donc même pour les singes, en fait, quand on arrive à associer une image qui flatte ce à qui on veut s'identifier ou ce dont on a envie, eh bien, on va choisir l'image abstraite qui est à côté, qui n'a pas forcément de sens, et on voit bien que la publicité fait appel à des à des mécanismes qui sont très ancrés au niveau même biologique. Donc nous sommes manipulables, nous sommes sensibles à la flatterie. Dans la petite vidéo qu'on a vue, même quand Don Salus te demande à être flatté, il va quand même se poser la question de savoir s'il est vraiment beau. Manifestement, bon, il n'est pas beau, mais malgré tout, quand même, quand on le lui dit, ça... Ah bon, c'est vrai ? Ça, malgré tout, ça lui fait plaisir. Et nous réagissons à ce genre de choses. José, si tu peux montrer une autre petite vidéo qui est sortie cette semaine et qui montre un responsable du développement chez Google qui montre une petite expérience. Alors désolé, c'est en anglais. Je pense que vous allez comprendre, et donc il montre une conversation entre un ordinateur et une personne humaine. Il va demander à son assistant personnel, en fait, de prendre un rendez-vous chez une coiffeuse pour lui. Elle a pris ce que la personne en face d'elle disait, elle a su lui répondre, elle a rajouté des petits des petites façons de moduler l'intonation de sa voix, de telle sorte que la personne en face d'elle s'est même pas rendu compte que c'était une machine. Bon, moi, je suis informaticien. Quand je vois ça, je trouve ça absolument, c'est incroyable par rapport à ce qu'on savait faire il y a quelques années. Techniquement, c'est incroyable. Google, c'est quasiment tout de nos goûts, de ce qu'on aime, de nos intérêts, voilà, ce qu'on fait dans nos vies, notre situation financière, maritale, etc. Et maintenant, voilà, Google est capable avec une machine, de comprendre ce qu'on lui dit et de nous répondre d'une façon où on n'est même pas capable, nous, de se rendre compte que c'est un ordinateur qui est en face de nous. Et on s'inquiète effectivement de la façon dont on va être manipulé par ce genre de d'algorithmes et de fonctionnement. Des élections ont été influencées, et évidemment la pub que nous recevons à longueur de journée nous influence sur ce qu'on va acheter ou pas acheter. Donc nous sommes manipulés et manipulables. Et même moi maintenant, là, je pourrais essayer aussi de vous manipuler. Je pourrais essayer, l'Église dans son histoire a fait ça pendant des siècles, hein, de manipuler les chrétiens, bon, essentiellement en leur faisant peur, hein, en présentant l'enfer et les démons qui vous plongeaient dans des barils d'huile bouillante. L'Église a manipulé en faisant peur, en promettant des privilèges, en flattant l'orgueil de différentes populations les unes par rapport aux autres. C'est comme ça qu'on est manipulé. Je pourrais essayer de vous manipuler. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je pourrais essayer en appuyant sur les bons ressentis, les bons sentiments. Ce que je veux mettre en avant, c'est que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Pourtant, nous pouvons choisir. Nous pouvons choisir de faire confiance à Dieu pour vaincre la peur. Nous pouvons choisir de faire confiance à Dieu pour recevoir le salut et la vie. Nous pouvons choisir de faire confiance à Dieu pour pourvoir à nos besoins. Et nous pouvons aussi choisir de, de transmettre sa parole telle qu'elle est. Sa parole dont le texte nous dit qu'elle est pure, qu'elle est éprouvée, une parole qui, elle, ne manipule pas. La parole de Dieu ne manipule pas, au contraire, elle libère. Et nous pouvons choisir de donner cette parole-là, cette parole qui libère et qui n'enferme pas. Nous pouvons aussi choisir de qui nous écoutons. Ce texte nous dit que Dieu, lui, il écoute les pauvres. Il écoute ceux qui gémissent. C'est intéressant, les pauvres dans ce texte ne parlent pas. Ils gémissent, parce que personne ne les écoute. Parce que le texte nous dit qu'ils sont méprisés. Parce que, contrairement aux puissants qui peuvent manipuler par leur parole, eh bien, la parole des pauvres n'est pas écoutée. Eh bien, nous pouvons choisir de suivre le Seigneur et d'écouter ceux qui sont pauvres et méprisés, ceux dont la parole n'a pas de portée dans notre société. Le texte conclut en disant, le monde est plein de corruption. Il y a dans la traduction du second, en fait, il est dit le monde est plein de bassesse. Et normalement, ce qu'on oppose à la bassesse, ben, c'est la noblesse, la grandeur d'âme. Et nous pourrions nous dire que c'est ça que nous devons être. Nous devons être plus nobles, des exemples. Et même l'éthique de la vérité, le fait de vouloir s'attacher à la vérité, pourrait nous pousser à être ça, à être des plus nobles. Mais je ne crois pas que ce soit le chemin que le Seigneur nous montre. Parce que quand je pense au Christ, je me rends compte que il a dès le début choisi ce qui était petit et qui n'attirait pas le regard. Quand on pense à la noblesse, on pense alors pour la France, hein, aux nobles et aux chevaliers et à ce genre de personnes. Et moi, je pense au Christ qui est rentré dans Jérusalem. Il n'est pas rentré sur un grand cheval blanc dans Jérusalem. Il est rentré monté sur un ânon. Il n'a pas choisi d'être au-dessus des autres. Au contraire, il a toujours choisi d'être au service. Jésus fait pas de nous des hommes et des femmes meilleurs que les autres. Je pense que c'est une des choses que j'ai progressivement appris à renoncer finalement à être meilleur que les autres. Par l'expérience aussi, hein. Quand je voulais raconter juste une petite histoire, un petit truc qui m'est arrivé quand je disais qu'on était manipulable. Je me rappelle d'une fois où j'étais étudiant. Et une jeune fille est venue chez moi pour vendre un abonnement à un magazine. Elle était plutôt jolie et je sais pas comment ça s'est passé, mais une heure après j'avais pris l'abonnement à son magazine dont j'avais absolument pas envie, besoin. Je me suis dit mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment je me suis retrouvé à acheter ce truc-là dont j'avais pas envie? Tout ça parce qu'une jolie fille est venue. Et m'a embobiné. Elle a trouvé les arguments qu'il fallait pour que j'ai envie de lui plaire. J'en sais rien. Bon, bref. Donc, oui, moi aussi, je me suis rendu compte que, en appuyant sur les bons ressorts psychologiques, moi aussi, j'étais manipulable. Et j'étais chrétien depuis déjà un bon moment quand c'est arrivé. Et je doute pas que ça peut encore m'arriver, pas forcément sur les mêmes ressorts, mais en tout cas, ça peut encore m'arriver. Dieu ne fait pas de nous des gens plus bons, plus intelligents. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il renouvelle notre cœur. Il renouvelle notre cœur, il renouvelle notre intelligence pour que nous puissions choisir de nous attacher à lui, pour que nous puissions choisir la vérité plutôt que le mensonge, que nous puissions choisir la confiance plutôt que l'orgueil. Nous donne cette capacité à choisir, c'est ça qui transforme dans nos cœurs. Alors, je vous invite à choisir. Je vous invite à mettre en œuvre le salut que Dieu vous a donné, à mettre en œuvre la puissance de l'Esprit Saint qui vous transforme de l'intérieur, pour peu que vous lui laissiez la possibilité de le faire. C'est un choix qu'on doit renouveler jour après jour, jusqu'à ce que un jour nous soyons vraiment complètement transformés et rendus complètement purs jusque dans nos corps. Mais en attendant ce moment-là, que nous puissions être des lumières dans le monde où nous sommes par les choix que nous faisons au jour le jour, parce que nous choisissons la vérité, nous choisissons de parler sans chercher à manipuler ou à flatter, parce que aussi nous choisissons d'aimer ceux qui nous entourent, et c'est j'en ai pas parlé dans ce passage-là, mais évidemment l'amour que nous pouvons manifester à ceux qui sont autour de nous, c'est au bout du compte c'est ça qui nous rend différents, et en tout cas qui nous permet d'être des instruments dans sa main. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère.